France Culture, précisément 19h. Bonsoir à tous. Dimanche 3 juillet, nous avons choisi donc de consacrer une longue émission spéciale à la disparition hier de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, auquel le président de la République, François Hollande, on l'a appris tout à l'heure, organisera un hommage national ce jeudi aux Invalides. Les émissions Dimanche et après Soft Power se sont donc associées pour vous proposer cette soirée spéciale qui a commencé depuis 18h et continue jusqu'à 20h avec vous, Raphaël Bourgoin.
Oui,
bonsoir Raphaël, et de nombreux invités et témoins. Alors, dans la première partie de cette émission, nous sommes intéressés à Michel Rocard, homme d'idées. La seconde partie sera consacrée à Michel Rocard, homme d'action, bien que les idées et l'action, je le disais tout à l'heure, avec leur corollaire, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité sont indissociables finalement chez Rocard. L'action, c'est d'abord celle des hommes et des femmes, peu nombreuses d'ailleurs, les femmes, dans le rocardisme. Et au fond, il y a eu trois générations de rocardiens. La première, ce fut celle de la guerre d'Algérie, puis du PSU, et nous l'avons entendu avec Jacques Julliard, par exemple, tout à l'heure. La seconde fut celle du PS, des années 70 et 80, et bien sûr du passage de Michel Rocard à Matignon entre 1988 et 1991. La troisième est celle, on pourrait dire, de Manuel Valls et aussi de Benoît Hamon, les jeunes rocardiens des années 90 qui ont grandi avec lui et en sont aujourd'hui les héritiers. Alors nous accueillerons dans cette seconde partie d'émission trois figures justement de ces héritiers du rocardisme. Jean-Paul Huchon d'abord, qui a été le directeur de cabinet de Michel Rocard, l'hôtel Matignon de 1988 à 91 et fut aussi maire de Conflans-Sainte-Honorine où il a succédé à Rocard avant d'être bien sûr président de la région Île-de-France. Avec nous également ce soir Benoît Hamon, ancien ministre de François Hollande mais qui fut aussi un jeune rocardien à la fin des années 80 et au début des années 90 et a pris la tête du mouvement des jeunes socialistes en 93 auprès de Michel Rocard. Bonsoir Benoît Hamon.
Bonsoir Frédéric Martin.
Ça vous rappelle des souvenirs, jeune rocardien, fin des années 80?
Oui, que des bons souvenirs d'ailleurs.
Jules Fournier, enfin, qui a 24 ans, qui reste avec nous ce soir après avoir participé à la première partie de cette émission et qui représente au fond la toute dernière génération rocardienne. Il fut la plume de Michel Rocard, il a travaillé à ses côtés sur ses deux derniers livres, dont un inédit, véritable testament politique. Un mot peut-être sur ça, Jules Fournier?
Bien sûr, il voulait à la fin de sa vie raconter son histoire du socialisme, expliquer comment il était venu au socialisme, ce que le socialisme lui avait apporté et aussi peut-être ce qu'il voulait laisser au socialisme avec une valeur cardinale. Il déplorait qu'elle ne soit pas assez reprise dans les discours, dans les actes, dans les idées de certains responsables aujourd'hui. L'émancipation des individus, l'émancipation humaine, le temps libre. Il racontait souvent une histoire, lors de ses conférences, il demandait à
une sorte de test au fond, quoi.
Un test, le test de Michel Rocard. Il demandait à tout l'auditoire de fermer les yeux et de penser, vous pouvez le faire d'ailleurs si vous le souhaitez, de penser à trois moments particulièrement heureux de leur vie. Et après quelques secondes, il reprenait la parole, il disait certains auront pensé à des moments en famille, certains auront pensé à des amours, des exploits sportifs, des voyages, mais qui, au fond, aura pensé au travail? Et il s'appuyait là-dessus pour montrer que le travail avait pris une place démesurée dans la société, dans l'organisation des sociétés aujourd'hui, pour déplorer aussi ce qu'il appelait l'excès de besoin et le matérialisme fou qui tuait en fait lentement les sociétés et les hommes.
Le rocardisme, on pourrait l'expliquer, le résumer à travers cinq grandes idées. Et je ne sais pas, Benoît Hamon, si vous seriez d'accord avec moi. Je vous poserai la question juste après. Mais ce sont, disons, celles que personnellement je retiendrai. D'abord, le parler vrai, c'est-à-dire le refus de la démagogie, comme le rappelait il y a un instant Jacques Julliard dans la première partie de cette émission. Ce fut ensuite le rocardisme, le combat pour des valeurs, contre la guerre d'Algérie au départ, contre le totalitarisme communiste ensuite, et plus tard pour les accords de Matignon pour éviter la guerre en Nouvelle-Calédonie. Ce fut ensuite un nouveau contrat social autour de l'idée de la décentralisation, de l'importance de la société civile, la confiance faite aux corps intermédiaires et en premier lieu les syndicats plutôt qu'en la toute-puissance de l'État. On privilégie le contrat sur la loi, les accords d'entreprise, la participation des citoyens à la vie économique. Les liens entre Rocard et le PSU, entre Rocard et la CFDT d'Edmond-Maire sont bien sûr ici décisifs. C'est ce qu'on a appelé après le congrès de Nantes en 1977 la seconde gauche. Et cette seconde gauche, et c'est le quatrième élément selon moi du du rocardisme est avant tout une gauche des idées. Si on a dit que pour Mitterrand, la politique, ce sont les hommes, il est vrai que pour Michel Rocard, la politique, ce sont les idées. D'où ces liens fusionnels avec les intellectuels, avec la revue Esprit, avec Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon et François Furet, qui écrivent ensemble La République du Centre en 1988, l'année où Rocard entre justement à Matignon. Michel Rocard était un intellectuel en politique et peut-être d'abord un homme d'idées avant d'être un homme politique. On pourra y revenir. Enfin, et c'est peut-être son héritage le plus important aujourd'hui, en particulièrement dans cet après-Brexit, qu'il avait finalement presque un petit peu appelé de ses voeux dans l'interview du Point, Michel Rocard, ce fut très tôt l'homme du rêve européen. L'avenir du socialisme n'existe qu'au niveau européen, dit Rocard dès 77, au congrès de Nantes. C'est précoce et presque prémonitoire. Michel Rocard, homme d'idées, on l'a évoqué. Michel Rocard, homme d'action, c'est cette seconde partie d'émission de cette émission spéciale ce soir avec Jean Pluchon, Benoît Hamon. Et peut-être pour commencer, Benoît Hamon, de tous ces visages, de toutes ces facettes du rocardisme, laquelle est-ce que vous garderiez vous-même en mémoire?
Moi, je vais vous dire, pas une seule en particulier. Je pense que Michel Rocard, c'était une pensée complexe, qu'il est difficile de résumer. C'est un peu un des traits de l'époque de nous demander en trois mots de résumer chacun notre Michel Rocard. Mais moi, je trouve ça très compliqué. Et c'était une des particularités de Michel Rocard, de, finalement, à travers le temps qu'il accordait à son expression, au discours politique, de pas être finalement en phase avec le court-termisme de l'époque, le réductionnisme de la politique. Je sais pas si c'est un mot, c'est un peu impropre, mais bon. Et ce qui en faisait la richesse, l'intérêt, et jusqu'au bout. En fait, une interview de Michel Rocard, c'est jamais trois questions à Michel Rocard. C'est forcément 10 pages dans le Point.
C'était souvent, j'ai 3 points à vous dire, et puis on en était au 4e, au 5e, au 6e.
Oui, puis et c'est vrai qu'il sollicitait parfois un vrai effort de concentration, et que certains attribuaient une difficulté à être clair, mais qui en réalité restituait la complexité d'une pensée, et je pense qu'on avait besoin aussi de cette complexité-là. Moi, si je devais, malgré tout, en tout cas donner un fil conducteur qui embrasse une grande partie des combats politiques qui ont été les siens, je crois que c'est un homme qui a donné une importance considérable à la qualité de la décision démocratique. Aussi bien dans pour la question sur les questions économiques, sur la question du travail, de l'entreprise, que de l'exercice du pouvoir ou de la question européenne, il a en tout cas toujours fait de la question démocratique une question centrale. Et d'ailleurs son courant dans le PS, c'était celui du socialisme démocratique. Et on se revendiquait de cela, du socialisme démocratique. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir des formes d'exercice du pouvoir, de transformation sociale, qui pouvaient justifier au nom d'une avant-garde éclairée, d'une intelligence qui aurait été propre de quelques-uns, de faire l'impasse sur la démocratie.
J'ai évoqué vos débuts en politique qui se passent dans le rocardisme, au sein notamment des clubs forums, les jeunes rocardiens à la fin des années 80. Ensuite, vous rentrez à la direction du PS et prenez la tête du MJS au nom de Michel Rocard en 93. Une question finalement pour vous deux, comment à 20 ans et pourquoi on choisit d'être rocardien, Benoît Hamon?
D'abord, moi j'arrive au rocardisme par filières historiques du rocardisme, c'est la Bretagne. C'est la gauche catho, comme on dit, c'est la deuxième gauche où Michel Rocard avait de nombreux relais, et mon engagement, qui est un engagement au Parti Socialiste, se fait dans un milieu assez bouillonnant des rocardiens bretons. Et on devient rocardien, honnêtement, c'est une stupéfaction quand on découvre, par exemple, qu'on est classé comme la droite du Parti Socialiste par des gens très propres sur eux, qui sont parisiens, banlieusards, et qui, quand on monte dans les réunions nationales à Paris, vous classent à la droite du PS. On comprend pas bien cela. On est honnêtement, dans ces époques-là, où le Parti Socialiste était très clivé, on revêt un petit prêt-à-porter politique et idéologique bien pratique. Chacun a son catéchisme sous le bras et récite.
Ça, c'est quand précisément?
Ce sont les années, fin des années 80, début des années 90. Mais si moi je dois retenir un moment personnel avec Michel Rocard. Il est forcément pour moi très particulier. C'est le moment où dans son bureau, quand il est premier secrétaire du Parti Socialiste,
93,
il me dit,
donc.
Oui, il me dit banco pour l'autonomie des jeunes socialistes. Alors qu'est-ce que c'est l'autonomie des jeunes socialistes ? Il s'avère que c'était une revendication du jeune Michel Rocard lui-même, quand il était aux étudiants socialistes, quand il s'était battu avec Pierre Mauroy, à l'époque de la SFIO, il y avait l'aspiration à l'autonomie des mouvements de jeunesse. Et quand on lui demande à ce moment-là de faire le pari un peu risqué pour un parti politique de laisser son organisation de jeunesse décider elle-même de ses communiqués de presse, de son orientation, de ses chefs, il dit, mais sans l'ombre d'une hésitation, ce que tout son entourage aura pu lui contester. Il dit oui immédiatement. Il est là, comme vous êtes en face de moi, et il dit oui, on en parle. Et ça se fait avec une simplicité incroyable. Et depuis, jamais personne n'est revenu là-dessus, au Parti Socialiste, trop risqué sans doute. Mais c'est un acte d'une intégrité politique, eu égard à son engagement et aux convictions qu'il avait comme étudiant socialiste quand même, un acte d'une maturité, d'une confiance dans la jeunesse que je trouve moi absolument incroyable et je garde le souvenir de ce moment-là parce qu'il s'était fait, on avait passé quoi une bonne heure ensemble et tout ça s'était décidé avec une tranquillité absolument incomparable.
Même question à Jules Fournier qui a 24 ans. Il y a 20 ans d'écart entre vous deux au moment de l'entrée en rocardisme. Comme quoi, il y a vraiment plusieurs générations pour des raisons différentes sans doute. Pourquoi à 20 ans, d'ailleurs aujourd'hui, on est rocardien ?
Moi, j'entre à Sciences Po l'année précisément où Michel Rocard démissionne de son dernier mandat électif, celui au Parlement européen, en 2009. En plein cœur du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy. Je suis déjà au Parti Socialiste depuis quelques mois, quelques années. Et très vite, dès qu'il se retire en fait sur son Aventin, libéré de ses mandats électifs, on est subjugué par sa capacité d'analyse des sociétés contemporaines qui étaient extrêmement fine, brillante, érudite, et qu'il conjuguait avec une capacité à aller au-delà du réel, à dépasser le réel pour inventer des solutions politiques innovantes. En somme, par sa capacité à penser le réel comme préalable pour en penser les plaies.
L'aventure de la gauche française est prodigieuse. Depuis sa fondation, le socialisme a au fond toujours échoué en pays développés et de tradition démocratique. Soit en devenant bureaucratique, soit en modérant trop ses ambitions. Des circonstances précises font que c'est à la France qu'il incombe de relever l'enjeu et d'imposer pour la première fois, tout à la fois, la fusion des deux grandes traditions du mouvement ouvrier et la réussite de la première expérience de socialisme démocratique. Notre devoir, mes camarades, il est d'être à la hauteur de cette responsabilité, de cette indéminente responsabilité historique. Pour remplir ce devoir, une seule exigence, celle de la rigueur, celle de la clarté.
Discours important, peut-être le plus important des discours de Michel Rocard sur les deux cultures politiques. C'est au congrès de Nantes en 1977. Benoît Hamon, vous étiez tout jeune à l'époque, une dizaine d'années, même pas. Mais il évoque l'expérimentation, la société civile, la décentralisation, les coopératives, les associations dans ce discours contre le risque d'étatisation et de bureaucratie. Et il dit l'avenir du socialisme n'existe qu'au niveau européen. C'est une définition d'une gauche girondine et non pas jacobine. Vous étiez aussi héritier de ça lorsque vous décidez d'être rocardien ?
Écoutez, je pense que quand on a 20 ans, ces choses-là sont plus confuses, objectivement. Ce que je sais, c'est que si on devait trouver une filiation avec le discours de 77, et aujourd'hui, et si vous voulez trouver des héritiers du rocardisme, vous les trouverez dans le militantisme associatif, dans le militantisme de l'économie sociale et solidaire.
Dans les villes
chez
et les départements.
Qui réfléchissent au revenu universel d'existence comme une piste, à la réduction du temps de travail, qui bâtissent des solidarités, ceux qui fabriquent du socialisme du quotidien. Là, vous aurez une foule d'héritiers de sa pensée qui se reconnaissent sans doute en lui ou pas, mais qui sont vraiment, à mes yeux, les architecte du socialisme qui ressemble beaucoup à la pensée de Michel Rocard, qui posait quand même une question centrale, hein, qui est celle du pouvoir, et notamment du pouvoir dans l'entreprise, du pouvoir d'où tout le courant autogestionnaire, du pouvoir dans l'économie, et des questions sur lesquelles les socialistes sont mal à l'aise aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'il a gagné sur beaucoup de choses, Michel Rocard, mais c'est que beaucoup de gens ont fait ce qu'il disait sans le dire, ou sans l'avouer, et y compris dans le courant majoritaire qui s'est rallié à beaucoup d'axiomes qui avaient pu être développés par Michel Rocard. Le vrai reproche qu'on pourra faire au Parti Socialiste, dans son histoire, c'est pas de ne pas avoir changé, c'est en réalité de l'avoir fait sans l'avouer, et du coup, quand on ne l'avoue pas, en faisant très mal, parfois, ce que Michel Rocard aurait sans doute fait avec beaucoup plus de clarté.
Parce qu'il y a quand même un bilan, il y a le RMI, il y a la CSG, la Nouvelle-Calédonie. On cherche parfois le bilan dans d'autres gouvernements.
Oui,
de gauche.
Et puis après, il peut y avoir des réformes qui s'inspiraient directement de ça. Je pense que par exemple, le quinquennat de Lionel Jospin, sur la réduction du temps de travail, sur la loi exclusion, sur la CMU, est un quinquennat qui s'inspire à bien des égards de ce qu'avait été la pensée de Michel Rocard et de son passage à Matignon. On trouve d'ailleurs des hommes et des femmes dont l'héritage est quand même très lié à la deuxième gauche, pour ne parler que de Martine Aubry, alors qui est un personnage à part, mais qui est aussi héritière de ça, de cette culture sédétiste deuxième gauche, et qui a, avec Lionel Jospin, beaucoup, beaucoup fait en ce sens.
Mais normalement, on ne cesse de tirer des fils entre le passé et aujourd'hui. Évidemment, c'est bien normal à l'occasion de cette disparition de Michel Rocard. Il y a une chose frappante, vous avez dit tout à l'heure le parti très clivé quand vous intégrez les MJS. Tout à l'heure, on entendait Michel Rocard en première partie, vous n'étiez pas encore arrivé, c'est une archive de 1969 quand il se présente à la présidence. Dire la gauche éclate et sur quoi elle éclate, un manque de projet, disait-il. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à aujourd'hui et s'interroger sur cette question. Est-ce que le Parti Socialiste, le socialisme d'ailleurs auquel Michel Rocard était encore très attaché, il le disait dans cette interview du Point, est-ce que le Parti Socialiste peut encore supporter deux, voire plusieurs cultures ?
Moi, si le Parti Socialiste était tout entier rocardien, ça irait très bien. Le problème, je vous le dis très honnêtement, si on s'attache à lire ce qu'il dit, il y en aurait des débats. Hein. Moi, je ne suis pas... j'ai des désaccords, ou j'avais des désaccords avec Michel Rocard, mais quand on regarde la critique qui était la sienne de la financiarisation de l'économie, du capitalisme, l'aspiration qui était la sienne, en tout cas la manière dont il s'est mobilisé sur les questions écologiques, où il a joué un peu, le rôle d'un lanceur d'alerte, mais puisque c'est un mot un peu à la mode, mais qui a quand même largement éclairé le débat public. Sur toutes ces questions-là, il y avait, et c'est là la force de Michel Rocard, quand il était parlementaire européen, je me souviens qu'un jour, au Parlement européen, j'avais fait une petite note sur mon blog sur la répartition capital-travail. Et vous avez Michel Rocard, qui est quand même une autorité, qui tape à votre porte, la porte de votre bureau, vous dit bonjour, et vous demande votre note pour qu'on en parle dans son bureau, ce qui est absolument incroyable. Il avait une capacité à un esprit en éveil incroyable. Et c'est pour ça que moi je me méfie du réductionnisme. Je pense que Michel Rocard, c'était une pensée complexe. Et voilà, qu'il est difficile de ramasser en trois mots, trois formules et deux minutes encore moins. Quoi.
Qu'est-ce que nous y disons d'essentiel, qu'on puisse résumer vite. D'abord, que le socialisme, c'est une forme d'organisation de la société dans laquelle à la fois le pouvoir politique mais aussi le pouvoir économique sont démocratisés. Ce qui veut dire que les décisions doivent être prises aussi près que possible des intéressés, décentralisation, et ce qui veut dire que les intéressés doivent pouvoir peser dessus, les contrôler. Et cela dans le domaine de la vie publique, où ça commence déjà à se faire un peu, mais aussi dans celui de la production économique, où ce n'est pas le cas. Mais je dirais aussi qu'à côté de cette description du socialisme, encore plus importante est la manière de lutter pour le socialisme.
C'était Michel Rocard, une archive, alors là on est remonté il y a longtemps, vous étiez l'année de votre naissance quasiment je crois, vous êtes né en 68, c'était en 69, Michel Rocard évoquant dans le cas du PSU, ce qu'était sa définition du socialisme. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h, émission spéciale ce soir avec Raphaël Bourgois consacré à Michel Rocard, disparu hier. On accueille maintenant Jean-Paul Huchon, bonsoir.
Bonsoir.
On a évoqué Jean-Paul Huchon, le passé, on est revenu sur l'homme d'idées, on a évoqué aussi son histoire, les deux gauches, etc. On aimerait évoquer maintenant plus précisément l'homme d'action, et notamment l'homme d'action aux côtés duquel vous avez travaillé, puisque vous étiez directeur de cabinet de Michel Rocard à Matignon.
Depuis 81
en 1981,
jusqu'à 91.
Voilà. Avant et après, mais notamment à Matignon, donc dans l'action, oui. la plus précise. Peut-être juste avant d'en venir à l'homme d'action, vous l'avez rencontré tout récemment.
Oui, je l'ai vu mercredi dernier. Il était déjà très très mal et en fait, il n'avait plus la maîtrise ni du langage ni de la cohérence de la pensée. On a pensé que ça allait être une espèce de soin palliatif pendant quelques jours et puis finalement non, il est passé très très vite. En réalité, c'était d'une très grande brutalité puisqu'il est rentré à l'hôpital il y a seulement 10 jours. Mais il était très malade depuis longtemps. Mais là, il a cumulé une pneumonie, un cancer et surtout deux AVC qui font qu'il n'était plus en état de... Par contre, il avait des éclairs et il avait les yeux encore assez vivants et le mot Brexit le faisait réagir. Et il était vraiment, il disait, maladroitement et difficilement à comprendre, hein, il disait, il faut que j'aille là-bas pour les convaincre. C'est fou. Et sa femme m'a dit, la seule chose qui l'a maintenu en vie pendant toute cette période de douleur, c'est la politique, quoi. Il continuait à se passionner, comme le disait Benoît tout à l'heure, et curiosité inlassable.
Jean-Paul Huchon, l'homme d'action, comment est-ce que vous travailliez avec lui toutes ces années, et notamment à Matignon?
C'était facile parce que je pense que c'est très rare, hein, mais ça doit être un des rares hommes politiques majeurs qui n'ait jamais dit « c'est la faute de mon directeur de cabinet ou du cabinet ». Il assumait toutes ses décisions et il n'en voulait jamais à personne. Il y avait donc un côté extrêmement humain, il était facile, il était simple, d'une simplicité incroyable. Moi, je sais que j'ai déjeuné avec lui il y a un mois et demi. J'ai emmené une personne qui ne connaissait pas et qui m'a dit « Mais comment c'est possible qu'un type aussi brillant, intelligent, soit aussi simple, aussi ouvert, aussi drôle ?» Parce que Rocard était drôle par moments. Il avait une capacité... Moi, je me souviens, une fois, il y avait eu un... C'est une anecdote un peu secrète, mais peu importe. Pendant la guerre du Golfe, Fabius propose à Rocard, il fait la proposition de s'allier pour tuer Jospin et les autres. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'il t'a proposé la botte? Et il me dit oui. Et je dis, si on fait l'expliquer à Jospin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il me dit, tu prendras du Maxiton. Il lui arrivait d'être assez drôle. Un homme d'une pensée aussi complexe et aussi d'une élocution aussi difficile à suivre, en réalité...
Le parler vrai, c'était aussi un parler alambiqué, souvent.
Oui, mais qui respectait la complexité des choses. Et je pense que si les Français...
C'est ce que disait Benoît Hamon.
Si les Français lui vouent une véritable admiration, c'est parce qu'il ne les a jamais trompés sur la manière d'aborder les choses complexes.
Il ne comprenait pas tout, parfois, mais au moins, il savait que celui...
J'ai assisté à un congrès de la FNSEA à ses côtés, où les paysans ne comprenaient absolument rien à ce qu'ils leur racontaient sur des tas de trucs très complexes, et ils disaient, putain, intelligent quand même, hein, voilà. il était comme ça.
Ouais. Benoît Hamon?
Je me souviens, je sais pas, et Jean-Paul, tu me corrigeras, je sais pas si c'est lui qui avait parlé du devoir de grisaille.
Oui, bien sûr.
Et je me souviens que ça, c'était pas franchement pour un jeune, le devoir de grisaille.
On rentre pas en rocardien à 20 ans.
Vous préférez les grandes épopées. Sauf que, mine de rien, à cette époque-là, ça mobilisait quand même. Pourquoi? Parce que, il y avait, souvent, il y avait des mots qui revenaient dans son discours. Le mot intelligence, il revenait souvent. Et notamment dans le fait de respecter l'intelligence de ceux qu'on a en face de soi. Et cette exigence-là, c'était une exigence qui s'accommodait, bon, on va dire, assez mal d'un certain nombre d'usages de la vie politique. Et je me souviens d'une chose où ça grognait chez les élus rocardiens, c'est que Rocard, il avait un défaut en politique, c'est qu'il se souvenait pas des têtes et des gens. Et les gens, il y avait toujours des élus, des gens autour de lui pour se désoler qu'il ait pas reconnu tel ou tel qui avait pourtant fait le choix de signer sa motion, etc. Il était quand même objectivement totalement à part. Quoi.
Absolument. Voilà. C'est vrai qu'il reconnaissait presque personne. Ouais, c'est drôle. Hein.
Notre pays a déployé des décennies d'efforts pour lutter contre la pauvreté et contre le dénuement complet. Il entreprend maintenant de les attaquer avec une vigueur nouvelle. Il n'est pas digne de notre passé, ni concevable pour notre avenir. Tant de gens survivent dans la misère, ils se voient rejetés aux franges d'une société qui les frappe d'exclusion sans appel.
La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite. Et cela parce qu'elle donne tout son sens au respect de l'autre, au respect de la dignité humaine. Il nous faudra donc renouveler profondément nos habitudes de penser et d'agir pour être plus participatifs, moins cloisonnés, bref, mieux ouverts sur la société.
Vous avez reconnu Jean-Paul Huchon?
Ah, j'ai reconnu le discours, j'y ai travaillé, mais c'est quand même lui qui...
C'est le discours
rédigeait...
de politique générale, donc,
oui.
1988.
Il rédigeait tout avec une écriture extraordinaire, puisque ça partait de la gauche, ça allait vers la droite, ça montait. Donc il y avait la moitié de la page qui était toujours... Et il écrivait tout comme ça, à la main. Il nous écrivait des circulaires au ministre et tout, qu'il écrivait le dimanche. Le lundi, on se trouvait avec des machins, des infernaux à faire. Et il était, de ce point de vue-là, il était quand même assez extraordinaire. Le Devoir de Grisaille, ça me rappelle vraiment ça. C'est paru dans Le Monde. On a un article qui s'appelle Le Devoir de Grisaille. Et bon, c'était entre Rocard et ses communicants. Mais... ça n'a pas été bien pris du tout par les socialistes, mais ça correspondait à ce qu'a dit Benoît il y a un instant.
Alors, à l'instant, donc, discours de politique générale en 1988, discours notamment de lancement du RMI. Rocard a son bilan, c'est souvent rappelé, les accords de Matignon que vous avez coordonnés, Jean-Paul Huchon, avec Christian Blanc notamment, d'autres. Le RMI, la CSG, Benoît Hamon, Jean-Paul Huchon, c'est trois éléments très marquants.
La réforme de l'État aussi, avec un gros travail sur... le statut des fonctionnaires, les rapports avec les syndicats, et qui est très d'actualité aujourd'hui, où on se pose la question de savoir quelle doit être la nature du service public.
Mais ces projets-là, ils naissent où? Ils sont portés par les clubs, par exemple Convaincre, Forum, avant.
Le RMI pour
ils sont
lui,
accordés avec Mitterrand, lui, en accord avec Mitterrand. Comment ça se passe à ce moment-là?
Le RMI, pour lui, c'est vraiment une intuition, puisque dans la campagne présidentielle, il a accompagné Mitterrand, bien sûr, et il avait plusieurs thèmes majeurs, et dont le RMI, qui était vraiment son affaire à lui. Et il a réussi à le mettre en œuvre en moins de 3 mois, alors que c'est comme un sujet d'une complexité invraisemblable. Et je me souviens qu'il avait vraiment cru à ça. Mais pourquoi? Parce que lui, c'est un homme de macroéconomie, etc., mais il est aussi extrêmement sensible à la misère directe des gens. Et à Conflans-Sainte-Honorine, il avait connu quand même cette situation.
Il y a une très belle phrase, Jean-Paul Huchon, dans ce discours qu'on vient d'entendre de Michel Rocard, c'est celle-ci: « La solidarité n'est pas la bonne conscience du progrès, elle en est la condition. » Alors, je ne sais pas si vous en êtes l'auteur, mais ça résume bien la pensée de Michel Rocard. Et puis, pour tirer un fil jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on le fait depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça reste d'actualité.
C'est vrai, mais ça reste d'actualité, de même qu'un élément très important, mais qui fait bataille à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est la question du rythme et de la rapidité des réformes. Et Rocard avait une phrase terrible qui était « On ne pousse pas de l'herbe en tirant dessus ». Ce qu'il voulait dire, il fallait du temps, il fallait de la négociation, il fallait prendre la mesure des enjeux, etc. Et il a toujours été, il était d'ailleurs un peu fatigant pour ses collaborateurs, pour les députés également, parce que pour lui, un grand chantier, il disait « Oh, ça sera résolu dans 30 ans ».
Et en alors, même temps, les chantiers qu'on cite, là, c'était 288. Hein, voilà. En même temps, les chantiers qu'on vient de citer, le RMI, la Nouvelle-Calédonie, la CSG, c'est tous en 3 mois, 4 mois.
Ils ont été faits très rapidement, absolument.
Benoît Hamon, quand on revient sur ces grandes réformes importantes qui restent jusqu'à aujourd'hui, on se dit la gauche est capable de faire ça.
Oui, et Michel Rocard a été, de ce point de vue-là, un grand Premier ministre, un grand réformateur. Mais il avait une exigence démocratique. Il donnait du soin, il avait le souci de la qualité démocratique des décisions prises. Alors ce qui s'accommode avec l'idée selon laquelle il faut s'appuyer sur le mouvement social, il faut s'appuyer sur la négociation. Mais je crois que je crois que dans Michel Rocard, il y a aussi un très grand démocrate. Et avec un respect du suffrage universel, il est même, avec, je me souviens des débats à l'époque, il aborde lui-même la question de l'opinion et de l'intérêt qu'il y avait à être attentif à l'opinion. Alors, qui a fait évidemment hurler au sein du Parti Socialiste. Maintenant,
tout le monde fait ça.
Oui, tout le monde, bon, même trop. C'est-à-dire que je pense qu'il était, beaucoup plus laïque vis-à-vis de l'opinion. Et là, maintenant, il y a une religion de l'opinion. C'est-à-dire qu'on demande d'abord à l'opinion et ensuite en s'adaptant. Ce qui n'était pas le cas de Michel Rocard. Mais il avait le souci, voilà, de prendre la température et de mener des batailles qui étaient des batailles culturelles. C'est mieux si la société est disponible, prête, mûre pour engager des réformes, surtout sur des sujets complexes. Mais je crois vraiment, je le dis, que l'héritage de Michel Rocard, ce ne sont pas seulement les réformes des trois années où il a été Premier ministre. Trois ou quatre, d'ailleurs. Trois. Et il y a eu beaucoup de choses après, et moi je mets les 35 heures, la réduction du temps de travail, il l'aurait peut-être pas fait de la même manière, hein. Je dis ça, après il y a le mécano, mais la perspective de la réduction du temps de travail, ces questions-là, la couverture maladie universelle, la loi exclusion, il y a beaucoup de textes qui s'inspirent en tout cas très largement de choses qui avaient été réfléchies dans les cercles rocardiens. Il n'y avait pas qu'un qui avait fait tout ça avant, qui avait beaucoup bossé. Hein.
Une question Jean-Paul Huchon d'un auditeur, Fabrice Bernier, qui dit « Mitterrand, à partir du virage de 1983, n'a-t-il pas paradoxalement mené une politique rocardienne ?» Et ma question aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas exagéré cette tension ? Comment vous l'avez vécu à Matignon, puisque vous étiez l'homme de Rocard, évidemment, face au président de la République ?
À Matignon, ce qui était difficile à gérer, c'était les rapports personnels entre le président et le Premier ministre. Mais nous, les équipes, on travaillait très bien ensemble, on avait le sentiment au fond que c'était pas on était dans une phase de plutôt bon gouvernement avec de bons résultats, honnêtement. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais les deux hommes étaient sur deux planètes différentes. L'un qui était vraiment un homme de pouvoir, au sens du terme, pas vulgaire, au contraire, avec une très grande connaissance des hommes, des
femmes.
Comme
le cardinal de Ré ou Machiavel, en
oui,
termes d'analyse.
Oui, vraiment. Et de l'autre côté, un homme qui, honnêtement, essayait de régler les problèmes. Et donc était à la fois...
Ça aurait pu être un couple qui marchait formidablement bien, puisque c'est ça, finalement, le président de la République et Matignon, Premier ministre.
En fait, il a très bien marché.
Pendant deux ans. Quoi.
Oui, jusqu'à un moment donné où je crois que ça a vraiment agacé Mitterrand. Ouais.
Ce soir, émission spéciale consacrée à Michel Rocard, qui est disparu hier avec Raphaël Bourgois jusqu'à 20h, dans des visages, des figures peut-être moins connues, en tout cas à Paris, mais qui le sont ailleurs. J'ai souhaité associer à cette émission Christophe Clergeau, par téléphone, depuis Nantes, en l'occurrence, vous connaissez tous, puisque vous êtes tous des jeunes rocardiens ou des membres des clubs forums, des clubs convaincre de ces années. Il est président du groupe socialiste au Conseil régional Pays de la Loire, ancien président des jeunes rocardiens, donc il a dirigé les clubs forums qui avaient été portés par Manuel Valls et auquel il a succédé. Il était aussi tête de liste PS au Conseil régional Pays de la Loire pour les dernières élections régionales. Depuis Nantes, Christophe Clergeau, bonsoir.
Bonsoir, Frédéric.
Quand on relit le discours de Michel Rocard au congrès de Nantes en 77, on s'aperçoit au fond qu'il est, c'est un discours très moderne, puisqu'au-delà du parler vrai, au-delà de tout ce qu'on a dit ce soir, il y a dans ce discours, au fond, une vraie position sur la décentralisation, Christophe Clergeau.
Oui, moi je crois que ce qu'on a trop retenu de l'histoire de la deuxième gauche, c'est le sérieux économique, le parler vrai, la rigueur de gestion. Mais ce qui a fait moi, mon engagement aux côtés de Michel Rocard et ce qu'il fait toujours aujourd'hui, c'est la passion de l'initiative locale, de la transformation qui se joue au quotidien dans les territoires, dans les entreprises, dans les associations dont parlait Benoît Hamon tout à l'heure, et cette formidable volonté de faire confiance aux acteurs, de leur donner des moyens d'ouvrir des perspectives nouvelles, d'expérimenter, d'inventer des solutions. Ce mouvement de créativité, de réinvention permanente de la gauche. Jamais s'endormir sur les lauriers, toujours poser des nouvelles questions. C'est pour moi ça, vraiment la marque de fabrique de Michel Rocard, cet éveil intellectuel, cette mise en question permanente.
Avec aussi l'idée de l'expérimentation, de tenter des choses. Au fond, il y a des problèmes, on voit comment ils sont résolus à Nantes ou à Marseille. Et en fonction, on décide s'il faut le généraliser, aller ailleurs, faire comme ça.
Mais justement, une des pires ignominies politiques des 20 dernières années, ça a été quand l'expérimentation a été constitutionnalisée. En France, quand on mène une expérimentation quelque part, on est obligé soit de la généraliser, soit de l'abandonner. Je pense que Michel Rocard défendait l'idée que la République était certes universelle et unique, mais elle était aussi diverse et que l'on pouvait trouver des bonnes solutions à Nantes qui pouvaient être différentes que dans le nord ou dans le sud de la France, et que la République pouvait être plus forte de cette liberté donnée aux acteurs locaux, de cette diversité des solutions choisies localement et adaptées aux différents contextes, de la même manière que des accords d'entreprise pouvaient être plus utiles aux salariés encore dans telle entreprise différente que dans une autre. Cette respiration collective et démocratique, cette invention au plus près du terrain, c'est ça une République vivante. Nos territoires sont différents et je crois qu'il avait cette passion de coller au réel et de croiser les idées qui sont les nôtres avec des réalités. C'est ça les utopies concrètes. Les utopies concrètes se concrétisent pas de la même manière dans tous les territoires et dans toutes les circonstances.
Jean-Paul Huchon.
Rocard, tout jeune, il a participé au colloque de Grenoble sur la décentralisation et la régionalisation, il est totalement pénétré de ces notions et il va même plus loin parce qu'en fait il veut décentraliser la décentralisation, c'est-à-dire que non seulement il y a la politique dans les villes mais il y a la politique dans les quartiers eux aussi doivent avoir une politique avec des contre-pouvoirs, etc. Donc il s'est livré à ça, et dans une certaine mesure, Conflans, petite ville de la banlieue parisienne,
dont il était maire et dont vous lui avez succédé,
a été un terrain d'expérimentation qui l'a beaucoup marqué. Parmi les choses qui l'ont le plus marqué, Michel, c'est Conflans, bien sûr, la décentralisation, mais c'est aussi Bruxelles, la négociation quand il était ministre de l'Agriculture et qu'il a imposé les fameux quotas laitiers. Et puis c'est, et on ne le sait pas assez, c'est un des pionniers de l'écologie. C'est-à-dire qu'il a vu le réchauffement de la planète comme une menace. Il appelait ça la BOP. Bataille pour l'organisation.
D'ailleurs, quand on le rencontrait, il disait « Ah là, je pars en Antarctique, je vais sauver l'Antarctique », ce qui était toujours un peu drôle. Christophe Clergeau, vous avez été, je l'ai dit, président des jeunes rocardiens à la fin des années 80, début des années 90. Cette génération de rocardiens était tête de liste au régional à Marseille, avec Christophe Castaner, avec vous dans les Pays de Loire, dans des villes comme Grenoble, on peut citer François Blouvac, on peut citer Jérôme Safar, d'autres, Benoît Hamon aussi. Pourquoi, quand on a 20 ans, dans ces années-là, on devient rocardien ?
On devient rocardien parce qu'on a la passion de transformer le réel, mais de le faire vraiment, de le faire concrètement et de le faire collectivement. Et on pense, comme le disait Benoît Hamon tout à l'heure, que la société se transforme par l'adhésion et par la mobilisation. Donc oui, on veut construire des alternatives au quotidien, on veut faire des choses. Tout simplement faire des choses. Et les uns et les autres, on a été aussi des militants associatifs, aussi des syndicalistes étudiants, mais engagés dans la vie quotidienne des campus, dans l'amélioration des conditions d'études, dans l'innovation pédagogique. Donc oui, c'est la passion de faire qui amène à rejoindre Michel Rocard à une période où dans l'histoire de la gauche, il y avait beaucoup de discours et beaucoup d'écarts entre le discours et la pratique. La lutte contre le mauletisme, la faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, ça reste une exigence absolument majeure. Et pour revenir sur ce que disait Jean-Paul Huchon sur l'expérience de Conflans, moi je crois que la pratique de Michel Rocard, elle est beaucoup plus loin que la démocratie participative. La démocratie participative, c'est finalement consulter et associer aux décisions. Mais ce qu'il a impulsé et ce que nous avons essayé les uns les autres de pratiquer, c'est une démocratie de la contribution, où chacun amenait ses projets, ses propositions, revendiquait le fait d'être acteur et pas seulement d'être consulté. Ben oui, c'est ça qui amène vers Michel Rocard quand on a 20 ans et qu'on veut agir.
Peut-être dernière question, Christophe Clergeau, vous êtes en direct de Nantes. Il y a avec nous Jules Fournier qui a 24 ans, qui est très jeune rocardien finalement par rapport à vous, à nous. Est-ce que c'est possible aussi, selon vous, est-ce que c'est encore possible d'être rocardien quand on a 24 ans aujourd'hui ? Et ce serait quoi ? Ça signifie quoi ?
Bien sûr, comme moi je suis mandéliste, bien après la mort de Pierre Mendès-France, eh bien, c'est tout simplement pour moi être fidèle à une liberté de ton, à une liberté, à un goût du débat, à une volonté de se poser toujours les questions du moment. Jean-Paul Huchon parlait de la bataille pour l'organisation de la planète, les enjeux du digital, de l'accès à la formation tout au long de la vie, ce mot-clé de l'émancipation et de l'égalité des possibles, qui sont le cœur de l'utopie pour moi du socialisme et de la gauche. Et ça se réinvente chaque jour en partant des réalités que nous vivons et que nous observons autour de nous. Et c'est cette exigence de réinvention et de fidélité aux idéaux qui est pour moi le cœur même de la démarche de Pierre Mendès-France ou de Michel Rocard. Donc on peut l'être, oui, dans toutes les générations, à tous les âges, il faut l'être à sa manière, et pour moi, le rocardisme n'a pas vraiment d'héritier aujourd'hui dans la vie politique française. Cet effort d'impertinence et de créativité, il doit profondément être renouvelé.
Héritage, héritier, ce sera la dernière partie de cette émission. Merci infiniment Christophe Clergeau, vous êtes président du groupe socialiste au Conseil régional Pays de la Loire et ancien président des clubs Forum, donc les clubs des jeunes rocardiens.
Permettez-moi de préciser un détail. Cher François Mitterrand, ce ne sera pas l'opposition du prétendant. J'ai dit et répété, je le répète ici, qu'en votre qualité de premier secrétaire, vous serez le premier d'entre nous qui aura à prendre sa décision personnelle sur le point de dire s'il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Et si vous l'êtes, je ne le serai pas contre vous. Non. Notre opposition, elle sera politique, elle sera militante, elle sera collective, elle ne sera pas grincheuse, elle sera loyale, porteuse d'idées, de projets, elle ne sera pas procédurière, à moins que nous y soyons réduits, je n'en fais pas le pari. Elle vous appuiera souvent, camarades solitaires de la motion A, car vous en aurez besoin, et nous ne serons pas chiches.
Une archive extrêmement historique, extrêmement importante. Michel Rocard au congrès de Metz en 1979. Peut-être, évidemment, le son est une archive un peu ancienne. Le son était un peu difficile, mais on voulait le diffuser absolument. Jean-Paul Huchon, moment extraordinairement important, puisque, au fond, c'est ce jour-là que Michel Rocard perd la présidentielle de 81.
Oui,
qui a écrit ce texte ?
Je crois que c'est Patrick Vivray et sans doute un peu Jean-François Merle et tout son entourage.
Peut-être c'était une erreur.
J'ai toujours pensé que Rocard aurait dû se présenter pour être un recours au cas où.
Et en tout cas, ne pas dire qu'il ne se présenterait pas si Mitterrand y allait, oui, parce non, que c'est ce qui se passe.
Il aurait pu se présenter, et il aurait fait, je pense, de l'ordre de 40%, ce qui était un socle qu'il a perdu ensuite. Et il lui a fallu être réintégré Premier ministre à la volonté du président et pas par
plus
son
de 10 ans
propre
après,
rapport
ouais.
de force.
Voilà. Benoît Hamon, quand on entend ça, camarade de la motion A, c'est incroyable, vous aviez 10 ans à ce moment-là, donc vous ne l'avez pas vécu. Mais c'est l'histoire, au fond, l'histoire du rocardisme change ce jour-là.
Oui, et j'ai envie de vous dire que quelques années plus tard, quand avant 88, puis plus tard, on nourrit l'espoir qu'il soit candidat. Moi, j'ai participé, Jean-Paul s'en souvient forcément, j'ai participé à, on va dire, l'organisation du discours de Montlouis. Discours de Montlouis, Montlouis-sur-Loire, c'est le Big Bang, c'est la volonté de Rocard d'ouvrir les choses. En théorie, c'est un meeting de province où la foule réagit spontanément. En réalité, on va confesser qu'on l'avait un peu organisé et qu'il y avait quelques quarts avec...
Il n'y a pas que de la morale dans le rocardisme, il y a aussi de la tactique, de la stratégie.
Il y a de l'organisation.
Jean-Paul Huchon écarte les mains.
Non, mais il n'est pas interdit d'être organisé. Et si Christophe, d'ailleurs, il nous écoute encore, Christophe Clergeau, il doit forcément s'en souvenir, parce que c'est un moment où on a par ailleurs un moment drôle, quoi, et puis un moment important. Et c'est vrai que on s'est toujours heurté quelque part à une forme de doute sur la volonté de Michel. Est-ce qu'il voulait y aller jusqu'au bout et il avait une telle exigence intellectuelle. Et en fait, je pense que c'était très dur de se hisser au niveau de Michel Rocard. Parce que nous, on avait nos petites contingences, on faisait finalement de la politique peut-être plus classiquement que lui. Si on était tous dans un mouvement collectif, c'était très dur de se hisser à son niveau d'exigence intellectuelle, politique. Mais moi, je veux témoigner quand même d'une chose. Quand j'étais ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, j'avais pris son avis sur...
C'est très rocardien déjà, comme titre de ministère.
Et je me souviens l'enthousiasme qu'il avait pour l'innovation sociale, l'enthousiasme qu'il avait sur le droit d'information pour reprendre une entreprise, la possibilité pour les salariés de reprendre leur entreprise, sur les coopératives d'activité et d'emploi, sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif, bref, toutes ces formes d'entreprise avec un entrepreneuriat fondé sur la gouvernance démocratique, sur la non-lucrativité, il était toujours extrêmement engagé sur ces questions-là, ce qui permet de faire la passerelle avec ce que disait auparavant Christophe Clergeau sur toutes ces innovations sur les territoires, toutes ces solidarités qui naissent aujourd'hui et qui fabriquent le socialisme des utopies concrètes, voilà, qui a tellement caractérisé le parcours et le discours de Michel Rocard.
Raphaël Bourgois.
Oui, on entend dans ce que vous dites, Christophe Clergeau, Benoît Hamon, Jean-Paul Huchon, le souci de Michel Rocard, c'est, pour reprendre une expression de Dominique Rousseau, le constitutionnaliste Dominique Rousseau, radicaliser la démocratie, finalement. C'est-à-dire permettre que la démocratie ne se joue pas qu'au moment des élections, mais qu'elle se joue au quotidien. On a beaucoup parlé de la politique. Il faudrait peut-être parler aussi d'une autre dimension. C'est l'importance de démocratiser l'économie, la vie de l'entreprise. On a eu Jean Roux sur cette antenne il y a quelques temps qui rappelait les lois Roux, qui voulait faire rentrer la démocratie dans l'entreprise. C'est malgré tout l'esprit, en tout cas affiché, vous me venez venir, de la loi El Khomri. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec cette loi travail n'est pas satisfaisant, peut-être, enfin, n'apparaît pas satisfaisant, en tout cas je sais que c'est votre cas, Benoît Hamon, vous ne vous en cachez pas, dans cet objectif de démocratiser l'entreprise, d'ouvrir l'entreprise finalement à la discussion, et peut-être à l'accord.
Écoutez, à cette étape, on est tous pour la démocratie dans l'entreprise. Et d'ailleurs, fort heureusement, il y a une multitude d'accords dans les entreprises. Et la démocratie, elle fonctionne, tant bien que mal, aujourd'hui en France, la démocratie sociale. Ce qui me semble, mais si c'est un peu délicat de commencer ce débat là maintenant, ce qui me semble, c'est que la loi El Khomri n'apporte aucune des garanties à l'épanouissement de la démocratie sociale en entreprise qu'elle devrait apporter. Je ne vois pas aujourd'hui les contreparties. Et surtout, on fait preuve d'une grande naïveté à considérer aujourd'hui que le simple fait de dire qu'il faut faire confiance aux salariés, moi j'ai confiance aux salariés pour effectivement revendiquer, préparer des accords au plus près de ce qu'ils considèrent être l'intérêt de l'entreprise et leur intérêt. Ils ne pensent pas qu'à eux, ils pensent aussi à l'intérêt de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un moment politique où il me semble que le taux de syndicalisation ridiculement bas de la France, 7,8%, seule l'Estonie ou la Lituanie est derrière nous, est un des signaux avec lesquels il me semble qu'il faut composer avec prudence. C'est pour ça que je pense que cette loi, depuis le début, est mal faite. Et qu'on pourrait très bien, d'ailleurs, corriger le tir. Mais là, vous allez m'amener sur un terrain sur lequel j'ai peur qu'on y passe quelques longues minutes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes jusqu'à 20h dans cette émission spéciale qui dure depuis 18h en hommage à Michel Rocard, disparu hier. Nous sommes ensemble avec Raphaël Bourgois jusqu'à donc 20h dans Soft Power. On l'a évoqué tout à l'heure, j'aimerais peut-être terminer cette émission sur les héritiers, sur l'héritage, vous en êtes, mais on peut évoquer aussi cette question. Est-ce qu'il va exister, Jean-Paul Huchon, Benoît Hamon, est-ce qu'il existera un rocardisme après Rocard?
D'abord, pour quelqu'un qui l'a connu vraiment de près, comme moi, il faut dire que Michel n'a jamais véritablement cherché à avoir des héritiers.
Mais c'est pas une faiblesse, justement ?
Non, on était des gens qui étaient à la place où ils étaient, mais ils n'avaient pas à en sortir dans une certaine mesure. Ça a toujours été un élément chez lui. Il était extrêmement élitiste. Pour lui, la peau d'âne, la multiplication des diplômes était une assurance d'intelligence, etc. Il n'a jamais voulu vraiment avoir de successeur. Mais sinon, qui s'inscrit dans la succession? Évidemment, quelque part, Manuel Valls en a à la fois les capacités et l'histoire. Mais il est plus régalien que Rocard, qui était plus un homme d'économie, de social, d'ailleurs, qui avait des rapports avec les syndicats exceptionnels. Moi, j'ai vu Krasucki, Blondel, Edmond Maire. Toute l'histoire de la CFDT, c'est une histoire avec Rocard. Et d'ailleurs, à l'hommage aux Invalides, Edmond Maire parlera.
On lui a parlé cette nuit, il voulait venir, mais il était en train de travailler son texte et il m'a dit « Je veux me concentrer sur mon texte que je dois lire jeudi à l'hommage national. »
Lui, c'était vraiment un homme de qui était, je crois, capable de comprendre que dans une société complexe, il faut beaucoup parler, beaucoup négocier, prendre du temps et respecter le partenaire ou l'adversaire. D'ailleurs, parce que il a une cote extraordinaire à la gauche comme à la droite, parce que il a toujours été respectueux des autres. Il a toujours essayé de les convaincre. Michel disait toujours, la confiance doit aller à la confiance. Évidemment, ça paraît naïf par rapport à un commentateur de l'actualité politique dans la dureté de la vie politique. Mais à mon avis, c'est comme ça qu'il faudra gouverner dans le futur.
Sur cette même question, Benoît Hamon, héritage, héritier?
Moi, je crois que d'héritier... moi, je n'en vois
parce
pas...
Parce qu'on peut dire que l'héritage, c'est à la fois Manuel Valls, c'est vous. D'une certaine manière, c'est assez large comme spectre.
Oui, puis moi, je revendique absolument pas. Je revendique d'avoir... épuisé, pioché dans l'immense legs qui est le sien, intellectuel, politique. Mais je crois d'héritier, je n'en vois pas. Sauf, je vous dis, je crois que ces héritiers sont des anonymes. Je crois que c'est une foule d'anonymes aujourd'hui qui prennent l'initiative d'une unité de production d'énergie renouvelable, qui prennent l'initiative d'une innovation pédagogique, qui prennent l'initiative d'une monnaie locale complémentaire, d'une filière de commerce équitable. Je pourrais citer plein d'exemples, et aussi dans la coopération avec les pays en voie de développement. Je crois que l'héritage de Michel Rocard, et je vais vous dire, heureusement qu'il est là, parce que c'est une source d'espérance, il est dans cette foule d'anonymes aujourd'hui qui fabriquent, sans demander de gratification, des solidarités au jour le jour. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que je pense que la gauche, qui est aujourd'hui en mauvaise santé, aura besoin de ces hommes et de ces femmes, héritiers sans doute en grande partie des combats et intellectuels et politiques de Michel Rocard pour se reconstruire demain. Donc moi je le vois plus là, l'héritage, que dans une figure ou une autre. Et voilà, mais c'est sans doute très, très subjectif, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Jean-Paul Huchon.
Au plan affectif, je pense que Valls et Macron sont les plus proches de lui. Reste que...
Peut-être après, moins sur le plan politique.
Sur le plan politique.
Parce qu'encore une fois, quand Rocard passe à Matignon, au moment où il sort, il y a le RMI, il y a la CSG, la Nouvelle-Calédonie. Quand Manuel Valls ou Macron sortiront, qu'est-ce qu'il y aura?
Il y aura quand même des choses. François Hollande passe son temps à expliquer tout ce qui a changé et qui est mieux qu'avant. Et il a raison de le faire dans une certaine mesure. Mais c'est pas tellement cette question de l'héritage. Évidemment, chacun va vouloir se l'approprier. Moi, ce qui m'impressionne,
c'est l'unanimité du discours.
C'est l'unanimité.
Classique, non?
Non, pas à ce point. Et pourquoi? Parce que je pense que la gauche en a besoin. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se ressourcer dans le bilan et les actes de quelqu'un qui finalement est revalorisé et qui ne fait honte à personne. Parce que,
donc de Mélenchon comme... à Chevènement, comme on l'a entendu, on peut le
bien sûr
saluer.
Oui, et d'ailleurs j'ai remarqué que Mélenchon avait été plutôt sympa dans son commentaire.
Chevènement aussi.
Voilà.
Peut-être pour terminer, des images, parce qu'un homme c'est aussi juste des images. Alors pour moi, je sais pas, les photos de Rocard en Solex, son vieux cartable débordant de livres, c'est le côté Tintin un peu scout, hamster érudit, vous savez c'était son nom, de scout
la photo
protestant.
De Pic Saint-Loup.
Qu'est-ce qui vous marque, Benoît Hamon, Jean-Paul Huchon?
Ce qui marque le plus, c'est quand même la Nouvelle-Calédonie, cette manière d'inventer la paix en quelques jours, en quelques heures, et d'être capable de l'imposer parce que seul cet homme-là donne confiance aux deux camps. C'est ça qui m'impressionne le plus. Pour le reste, Michel, c'est cette espèce de mec toujours très mal fagoté, avec des costumes trop grands pour lui, une vieille serviette et tout, mais un côté un peu presque britannique. Et c'est intéressant parce que la France, elle a besoin d'une démocratie peut-être qui s'inspire plus du Nord que du Sud.
Jules Fournier, le jeune rocardien qui a écouté toute cette émission, à la fois Jean-Paul Huchon et Benoît Hamon.
L'image, Michel Rocard dans son bureau, clope au bec, inlassablement. Malgré
les interdictions de la loi et tout ça.
Malgré les problèmes de santé, malgré tout. Ces pages, comme le rappelait Jean-Paul Huchon plus tôt, ces pages, son écriture incroyable, en sorte de pyramide inversée.
Oui.
Pas toujours extrêmement lisible, mais on faisait avec. Et cette force de travail, cette cette capacité incroyable de passer du coq à l'âne. Alors, on débarque dans son bureau, il a un énorme atlas ouvert sur la page de l'article une fois. La fois d'après, il raconte qu'il est en train de travailler justement sur le projet de, comme Benoît Hamon l'évoquait tout à l'heure, le projet de jeune entrepreneur qui innove dans tel ou tel coin de la France. Et à la fin, une fatigue qui, je pense, lui faisait vraiment beaucoup de mal. La diminution de sa force de travail, je pense, l'atteignait parce qu'il aimait profondément ce qu'il faisait. Il aimait réfléchir, il aimait innover, il aimait partager.
Quel sera le titre de ce livre que vous avez contribué à écrire avec lui, le dernier, le livre Testament, sur le testament sur le socialisme, l'émancipation? Il y a plusieurs titres en cours.
Il y a plusieurs titres. Je pense qu'il est un petit peu tôt pour savoir ce qu'il adviendra de cet ouvrage. On avait pensé à « Et si on essayait le socialisme ?» ou « Que reste-t-il du socialisme ?» Un titre qui me plaisait bien pour l'écho à la culture populaire. Reste à voir ce qu'il adviendra.
Ce que l'éditeur en fera, etc.
Exactement.
Jean-Paul Luchon ?
Moi, je sais qu'il avait commencé ce livre sur le dictionnaire amoureux de Matignon, qui n'a pas terminé, et qui va bien falloir qu'on essaye de l'aider à terminer. Mais sinon, s'il y avait un titre à trouver, si moi j'écrivais un livre sur Rocard, ce qui n'est pas impossible, ça sera « Cet homme-là n'avait rien de médiocre ».
If love was shown, I'd be more brief. If I can see anything I wanna entertain, but I can't rather have you next to me. But can you see that?
Depuis 18h, nous étions en édition spéciale consacrée ce soir à la disparition de Michel Rocard et un retour sur finalement plus de 50 années, 60 ans, a dit Jacques Julien, de vie politique autour du rocardisme. Merci à tous nos invités ce soir, ceux qui étaient avec nous sur ce plateau, Jean-Paul Luchon, ancien directeur de cabinet de Michel Rocard à Matignon, Benoît Hamon, député PS, ancien jeune rocardien, si on peut dire, Christophe Prochasson, historien, Gérard Courtois, éditorialiste au journal Le Monde, Jules Fournier, jeune plume de Michel Rocard, ainsi que ceux qui nous ont rejoints par téléphone, Bernard Kouchner, ancien ministre, et Jacques Julliard, donc historien. Merci infiniment aussi à vous, Raphaël Bourgois.
Merci.
Pour ces deux heures d'émission.
Peut-être dans des conditions plus joyeuses.
Plus optimistes. Deux heures d'émission passées ensemble. On se quitte ce soir avec cette nouveauté pour terminer la saison. Le nouvel album de Maxwell, 1990X, un magnifique morceau de soul et R&B après 7 ans de silence. On vous retrouve, Raphaël Bourgois, demain.
Et oui, le cumul des mandats sur France Culture, c'est possible. Demain, j'animerai le grain à moudre. Tout le mois de juillet, le grain à moudre d'été. Et figurez-vous qu'on revient sur la loi travail. Est-ce que le retour de la loi travail sera la revanche du Parlement ?
Cette émission Soft Power était la dernière de la saison. À partir de demain matin, donc la grille d'été de France Culture, vous l'avez compris, débute, et ce jusqu'au 29 août. On se retrouve quant à nous le 4 septembre avec pour la prochaine saison un nouveau réalisateur qui sera Philippe Baudouin. Occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont accompagné cette année, cette équipe. À la réalisation, Perret Legras et Olivier Guérin, duo formidable, merci à tous les deux. À la préparation de Soft Power toute l'année, c'était Mathilde Wagman et David Lavaux. Et ce soir à la régie, Pierre Monsigny. Merci infiniment à tous. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et un très bon été à tous.